Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le générique vient de vous le dire, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, il est 14h, c'est Rayon libre et nous sommes en direct aujourd'hui. Cette semaine, l'union du cycle fait la force, mais avant, Rayon libre, vous l'écoutez probablement et surtout sur la bande FM 93.1 FM. Rayon libre et Cause Commune, ils existent parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, de leur savoir, de leurs compétences, de leur énergie aussi pour vous proposer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans une programmation intelligente, différente, pertinente et surprenante. Il y a Olivier Gréco dedans, le directeur de l'antenne. Il y a Isabelle, Frédéric, Nel, Johan, Jean-Philippe, Corinne, Karine, Patrick, Abel et plus encore. Il y a des auditeurs et des auditrices aussi. Et puis il y a des invités qui ont des choses à dire. Cette semaine, un édito qui n'est pas sur le vélo, mais sur la radio. Mais sur le vélo quand même un peu. La radio libre, la radio associative, cette radio Cause Commune, elle existe comme les 700 autres radios associatives et locales parce qu'il y a cette envie de proposer un point de vue différent de celui que nous pouvons entendre dans les médias généralistes et capitalistes. Parce que la radio est un média populaire, gratuit, accessible. Combien coûte un transistor? Eh bien j'ai regardé, c'est à partir de 12 euros. Une fois qu'on a acheté le transistor, on y met des piles ou dans la prise murale et ça fonctionne. Pas besoin de s'abonner, de payer une taxe, de déclarer sur sa feuille d'impôt ne pas posséder de radio. Pas besoin de savoir lire ou écrire pour écouter la radio. Pas besoin non plus d'être passé chez l'ophtalmo, d'avoir une paire de lunettes. La radio, on la branche et on l'écoute. Et si ça nous plaît pas, eh ben on trouve une autre fréquence. Une radio comme Cause Commune existe aussi parce qu'il y a un fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. En 2024, le FSER dispose d'une enveloppe de 35,7 millions d'euros. Faites le calcul, pas besoin, je l'ai fait pour vous. 36 millions d'euros divisé par 700 radios, ça fait 51 000 euros par radio. 51 000 euros. De quoi payer les frais de diffusion, le loyer du local, et puis voilà pour Cause Commune. Pour le matériel, les frais inhérents à la vie d'une assoce, on se débrouille. Ce FSER, dans le projet loi finance, est proposé amputé de 35%. La profession estime que cette coupe de 35% va mettre sur le carreau entre 70 et 80% des radios existantes. La proposition budgétaire du ministère de la Culture doit être revue. Ce serait 500 radios locales qui disparaîtraient. Plouf du... Comme ça, du jour au lendemain, quand souvenez-vous, Madame Dati, la ministre de la Culture aujourd'hui, elle se plaignait de ces pistes cyclables qui, plouf, apparaissaient comme ça du jour au lendemain au petit matin. La radio associative me donne l'impression d'être dans le monde du média et de la volonté publique et politique à la même place que le vélo dans un système tout voiture. En façade, oh oui, c'est très important de développer, préserver la radio associative pour le pluralisme. Oh oui, tout le monde politique reconnaît que ces radios jouent un rôle essentiel dans le maillage territorial, dans les zones rurales et dans les quartiers prioritaires. Favorise l'expression locale et le lien social. Oh oui, le vélo, c'est une solution pertinente pour le transport. Oh oui, bien sûr, on soutient le vélo. Aujourd'hui, le ministre des Transports, François Durouvray, reçoit les associations vélo suite au meurtre de Paul la semaine dernière. Que va-t-il en sortir? Une fois qu'on a dit cela, on désinvestit, on fait demi-tour et on va caresser dans le sens du poil les gros, ceux qui sont déjà gavés de subventions, d'aides et de petits cadeaux, les autos et les médias commerciaux. Mon invité du jour n'y connaît probablement pas grand-chose au monde de la radio et qui pour lui en vouloir. Par contre, il y connaît un rayon dans le vélo et la politique vélo portée par le gouvernement. Il œuvre depuis quelques années en tant que bénévole, en tant que président de l'APIC, association pour l'identification des cycles. Il est depuis avril 2024 président de la filière économique vélo. Depuis juillet 2024 président de France Vélo. Depuis septembre 2024, il est président de la commission cycle au sein de l'Union Sport et Cycle. Il remplace Jérôme Valentin. Vélo et politique, c'est la compétence de Patrick. Les ministres passent-ils? Restent-ils? Le vélo est-il le parent pauvre de la politique en France? Y a-t-il autre chose qu'une volonté de façade? Et au-delà, quelle est la vision de Patrick pour le vélo en France sur la prochaine Olympiade? Quels sont les moyens financiers et ses moyens opérationnels? Bonjour Patrick.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous en studio, alors pas en studio, mais au micro, au téléphone en tout cas, à la radio. Est-ce que vous écoutez, vous, la radio?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est quelque chose d'important pour moi et vu mon âge, j'ai connu l'avènement des radios libres, donc je ne peux que être favorable à la radio.
À la radio, et la radio libre et la radio associative. Est-ce que vous avez parfois cette impression qu'il y a quand même aussi une dichotomie, hein, entre une incohérence même entre les discours et les faits en ce qui concerne l'envie politique de soutenir le vélo?
Alors, je crois que malheureusement c'est la vie politique. À un moment donné, il faut dire des belles choses pour attirer le client. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'après le Covid, on a eu la chance d'avoir aussi des politiques qui y croyaient quand même au vélo.
Hein. Ouais.
Je pense à Madame Borne, notre ancienne première ministre, qui a tenu quand même toutes ses paroles concernant le vélo. Alors depuis, elle est partie. Et depuis, j'ai envie de dire que les paroles ont passé. Il y a des gens qui ont oublié. Et il se passe que maintenant, le vélo, il commence à être à côté, en sachant qu'on a un président, à ma connaissance, qui préfère la bagnole. Hein, c'est ça ?
Non, je crois qu'il l'a dit.
Je pense qu'il l'a dit. Et je pense que, comme je dis souvent, le monde du vélo n'est pas contre la voiture. Le monde du vélo est pour le vélo.
Ouais.
Et surtout, il y a quelque chose qu'on doit faire de plus en plus et qu'on le fait de moins en moins, c'est de se respecter tous.
Ouais.
Et aujourd'hui, la voie publique doit être partagée. Doit être partagée dans la bienveillance.
Ouais.
Se respecter chacun. Ce qui vient de se passer la semaine dernière est terrible. Mais malheureusement, c'est quelque chose en vélo qu'on subit souvent, de ces gens qui sont en voiture et qui pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde. Et le vélo est le moyen pourtant d'avenir, de sociabilité, de bon pour la santé.
Ouais.
Bon pour la santé. Et ça, il faut que les politiques y pensent. Et le traduisent, parce que nous, on fait des études de plus en plus avec la filière économique vélo, pour dire que le vélo peut et sûrement va éviter des coûts à la sécurité sociale. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de budget, qu'on veut économiser, et je le comprends, et on peut qu'aller tous dans ce sens-là, mais justement, le vélo est un moyen pour économiser des coûts de sécurité sociale, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, aussi tous les seniors qui se mettent au vélo, ils vont mieux.
Oui.
Ils vont moins chez le médecin. Et donc, ça coûte moins à la sécurité sociale. Moi, je suis pour que le vélo, on ait une ordonnance pour ça, pour faire du vélo. Donc, il faut que les politiques suivent. Et pour suivre, il faut aussi qu'ils investissent aussi dans toutes les parties, pistes cyclables, les infrastructures, pour protéger. Et si on protège de plus en plus les vélos, on aura peut-être moins en moins de phénomènes de ce qui s'est passé terrible de la semaine dernière.
Justement, peut-être, Patrick, ce serait intéressant que vous nous rappeliez, parce que j'ai cité vos trois titres, donc président de l'APIC, président de la filière France Vélo et président de la commission cycle au sein de l'USC, l'Union Sport et Cycle. Est-ce que vous pouvez nous préciser assez rapidement les trois fonctions et les trois attentes, enfin les trois rôles que vous avez ici?
C'est beaucoup de présidents, là, faut avouer.
Monsieur le président.
C'est beaucoup de présidents. Et la PIC, c'est une association que nous avons créée, l'Union Sport et Cycle et la FUB, pour gérer le fichier national unique d'identification des vélos,
oui.
Donc, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc on a créé cette association pour porter ce fichier. Et donc j'ai été nommé le président. Après, nous avons porté administrativement mais à vélo, hein, parce que Madame Borne nous avait demandé de faire une fête de vélo. Donc on a une présidente, hein, mais à vélo, qui est Maria Chefdeville, hein, qui est élue à Chartres.
Qu'on a bien reçu, oui.
Voilà, après j'ai été élu dernièrement président de France Vélo, filière économique du vélo, qui regroupe l'ensemble des associations autour de vélo. Hein, donc vous avez l'Union Sport et Cycle, vous avez la FUB, vous avez Vélo et Territoire, Club et Territoire Marchal, vous avez aussi France Tourisme.
Oui.
Et aussi des entreprises qui nous rejoignent, comme Smooth & Go et autres, pour pouvoir porter la voix du vélo économiquement dans toute sa fonction, disons, et pas uniquement la partie industrielle, mais aussi la partie usage et par exemple le tourisme aussi. Donc, et après, j'ai été nommé dernièrement aussi président de la commission cycle et vice-président de l'Union Sport et Cycle en remplacement de M. Valentin. pour la partie, je dirais, industrielle et commerçante. Oui, c'est beaucoup de titres, mais c'est surtout beaucoup de bénévolat.
Ce n'est que du bénévolat, tout ça ?
C'est que du bénévolat, et comme je dis souvent, et même mes notes de frais, je les paye moi-même. Heureusement que j'ai deux entreprises aujourd'hui qui me font vivre à côté, et avec des collaborateurs exceptionnels qui font tourner les entreprises pendant que je ne suis pas là, et j'ai beaucoup de chance.
C'est des entreprises dans le monde du vélo ?
Entreprise dans le monde du vélo, la société Vélox, on paye 150 000 euros par an,
oui.
À la Garge de Bretagne, et j'ai aussi la société spécialité TTA, où on fait des plateaux, des pédaliers, tout ce qui est partie métallurgie. Donc voilà, c'est heureusement que j'ai ces deux entreprises-là qui me permettent, bien sûr, d'aller à fond dans mes titres de président, mais surtout dans mes associations. Et je fais... Parce que je pense que dans le monde actuel, on critique beaucoup. On critique beaucoup, et ça c'est très français, hein, la critique, c'est facile. Mais pour critiquer, je pense qu'il faut s'investir d'abord.
Oui.
C'est-à-dire on s'investit, on fait des choses, après on peut critiquer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être modifier.
Oui.
On peut peut-être apporter sa petite pierre. On fait quelque chose, on fait une action. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire que le monde évolue,
oui.
Tous ensemble et collectivement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis président, c'est pas parce que je m'impose comme président. C'est que je suis président élu. Donc président élu, ben, ça veut dire que c'est les autres associations, c'est le monde du vélo, qui considère que je joue au collectif.
Ouais.
Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis simplement là pour porter la voix du collectif et essayer que ce monde du vélo prenne sa place en France et qu'il soit reconnu comme tel. Bercy ne nous reconnaissait pas encore il y a quelque temps. Aujourd'hui, on a signé ce contrat de filière avec 6 ministres au mois de juin. Et ça, c'était important, parce qu'il y a les ministres, il y a par exemple un ministre de l'Industrie, qui est Roland Lescure, qui a signé ce contrat de filière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, Bercy reconnaît qu'il y a une industrie du vélo, qu'il y a une économie du vélo, qu'il y a du tourisme à vélo. Et ça, c'est hyper primordial pour notre avenir à tous.
Comment on peut expliquer qu'il a fallu attendre juin 2024 pour qu'il y ait cette reconnaissance-là et que ça ne s'est pas été fait, j'en sais rien, en 1960 ou 70 ?
Je dirais que peut-être qu'en 1970, si on avait porté le sujet, on aurait peut-être été reconnu plus vite parce que l'industrie du vélo en France était assez forte à cette époque-là.
Oui.
Malheureusement, elle nous a échappé dans les années... 80-90, hein, pour différentes raisons, surtout à cause de cassage de prix de certains.
Oui.
Mais et aujourd'hui, on revient à la charge. On revient à la charge avec cette notion, je dirais, de réindustrialiser la France,
oui.
Okay, avec des produits presque français. Et donc, je pense que c'est ça qui aujourd'hui dit au monde de la finance et au monde de Bercy de dire « Ah, ils sont peut-être intéressants. » Ah, ils peuvent apporter quelque chose. Et en même temps, si on décarbone, mais on doit décarboner avec quoi ? Avec le vélo.
Avec le vélo produit en France.
Mais par contre, je le dis en toute sincérité, la voiture doit exister. Moi, je vis dans le monde rural. Sans voiture, il n'y a personne qui ne pourra jamais se déplacer, faire 15 ou 20 ou 30 ou 50 km par jour. C'est évident. Mais je pense que le vélo... À partir du moment où on fait 5 ou 10 km pour un déplacement, on peut le faire en vélo. Et on va lutter justement tout ce qui est émissions là, qui nous pollue en permanence. J'y crois.
Oui, oui. Patrick, est-ce que vous diriez, enfin, quand on revient sur cette industrie, cette filière qui vient de se créer et qu'on se pose la question pourquoi pas en 1950 ou 60 ou 70, est-ce que selon vous, l'industrie du vélo ou les acteurs du monde du vélo sont finalement responsables que cette reconnaissance n'apparaisse qu'en 2024 ?
Pas les gens actuels.
Oui, non, mais bien sûr. Mais nos prédécesseurs.
Nos prédécesseurs, oui. Nos prédécesseurs ont, donné le marché du vélo aux Asiatiques, hein,
oui.
Parce que il fallait faire un prix, il fallait casser les prix, et ils ont donné le marché du vélo, ils ont même donné des brevets, il y a beaucoup de choses qui sont parties en Asie pour avoir le meilleur prix.
Ouais.
Et donc, c'est évident qu'à un moment... Mais, si vous voulez, il faut se rappeler qu'à une époque, et moi je m'en souviens, dans les années 80, on nous expliquait que l'industrie, c'était sale. Quand vous aviez des enfants, vous fallait les orienter au niveau école, il ne fallait surtout pas les mettre dans le monde industriel ou un truc ça.
Oui, ils étaient désorientés en troisième pour aller travailler avec leurs mains.
Voilà, il fallait surtout... À l'époque, c'était, fallait qu'on fasse de l'informatique principalement.
Oui.
Et c'était plutôt de valoriser tout ce qui est métier intellectuel. Il en faut. Mais le matériel... Les métiers manuels ou métiers industriels, il fallait surtout arrêter ça parce que c'était pas bien. Et l'industrie en France est partie ailleurs. Ce qui est la différence, si vous voulez, avec les Allemands qui ont une industrie lourde, qu'ils ont toujours gardée et qui fait qu'ils ont toujours été très forts à ce niveau-là. Nous, on l'a, ça nous a échappé. Nous a échappé pour différentes raisons. Et aujourd'hui, ben, on essaye de remettre ça au goût du jour. On essaie de remettre ça au goût du jour. Il y a des gens qui investissent, il y a des entrepreneurs qui investissent, il y a des grosses entreprises qui investissent sur le sujet, et moi j'y crois. Et en plus, à force, grâce à la filière, filière économique, on a réussi à avoir de la part, justement, de Bercy, hein, de France 2030, on a une enveloppe de 55 millions d'euros pour... investir dans le vélo.
Dans des projets.
C'est enveloppe, c'est des appels à projets.
Mais alors justement, donc, Patrick...
Premier appel à projet...
Je vous coupe la parole, Patrick, parce que le temps file, il est déjà 14h17, on va faire la pause musicale et on reviendra après la pause musicale, justement, sur les projets 55 millions et autres, ce qu'on va en faire, et puis aussi, j'ai envie de savoir, vous, quelle vision vous portez, et puis quels moyens vous avez. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose une impasse sur l'agenda. Je fais pas l'économie de la pause musicale. On s'écoute Halftime Blues de Calebrez et on se retrouve juste après. À tout de suite.
The man is walking alone.
Je prends la décision de couper un peu court cette musique parce que vous êtes toujours sur Cause Commune 93.2 FM. Deuxième partie de Rayon Libre avec Patrick Guinard, président de France Vélo de la commission cycle au sein de l'USC. Et il a beaucoup de choses à dire. On reprend la discussion tout de suite avec Patrick. Patrick, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Vous êtes toujours avec nous. Alors avant la pause musicale, vous me parliez d'appel à projet de 55 millions d'euros pour industrialiser la filière en France, hein, c'est ça ?
Oui, complètement. Complètement pour des projets innovants et écologique aussi.
Oui.
Donc il y a eu deux appels à projets.
Et vous avez un regard, vous, là-dessus, en tant que président de France Filière Vélo et de président de l'USC, de la section cycle ?
Alors nous, on a pas de regard. Disons, on a porté auprès des instances pour qu'ils puissent faire ces appels à projets. Et après, c'est l'ADEME qui gère ces appels à projets. Et c'est eux qui décident ils vont donner cette enveloppe. Donc non, surtout pas. On ne peut pas être jugé parti. Hein,
ceci dit, moi je trouve ça, enfin, de mon point de vue là comme ça, je trouve ça un peu étonnant, puisque vous êtes élu par vos pairs en tant que président de la filière France Vélo. On pourrait imaginer qu'il y ait une commission au sein de la filière France Vélo qui serait autonome et qui dirait ce projet il nous semble pertinent, on y va, et ce projet il nous semble un peu moins pertinent, on n'y va pas. Ce qui, mine de rien, vous portez une vision quand même.
C'est une excellente idée, mais on est quand même jugé parti. C'est-à-dire que moi, j'ai mes propres entreprises dans le vélo.
Oui.
Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, il ne faut pas qu'on puisse influencer par rapport à soi-même. Donc, moi, ça me gêne pas trop. Je préfère être neutre et je préfère ne pas faire partie des choses que de me faire accuser après derrière que je me suis arrangé pour
que Velox prenne des...
Ou mes copains ou mes amis ou des trucs comme ça. Donc il faut... L'ADEME s'en occupe. Ils vont nous donner leur réponse très prochainement sur le premier appel à 20 millions d'euros du 2 septembre. Il y a un prochain appel là, le 9 décembre, à 35 millions. Voilà, donc bon, on verra bien. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de projets, et ça, ça nous a rassurés avec ma déléguée générale Florence Gall.
Oui, hein, qu'on a reçue ici aussi, bien sûr.
Voilà, ouais. Qui fait un boulot extraordinaire à mes côtés. Et donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de réponses et que ça correspond à une très belle enveloppe.
Ouais.
Donc, on est très fiers de ça, déjà. Ça veut dire que le monde du vélo, il y a de la vraie innovation, il y a de la vraie industrie derrière, et puis il y a aussi apporter un message écologique important.
Et alors, parce que vous avez aussi mis en place ce label vélo, est-ce que aujourd'hui des vélos qui sont produits en France, mais je dirais de conception ou de capitaux, on va dire au hasard chinois, est-ce que ça vous va, ça? S'ils sont produits en France et assemblés en France?
Bon, moi, s'ils sont produits et assemblés en France, you're welcome, hein, bienvenue, hein, au contraire. Parce que nous, ce qui est important, c'est la défense de l'emploi.
Oui.
C'est aussi la balance commerciale. Hein, il ne faut pas promouvoir un usage et détruire la balance commerciale. Au contraire, il faut promouvoir un usage et faire que la balance commerciale soit positive. Donc, à partir du moment où il y a des personnes extérieures, quels qu'ils soient, mais qui viennent fabriquer en France, mais ils sont très très bienvenus. C'est, au contraire, on a besoin aussi de capitaux étrangers, on a besoin de tout le monde, et surtout on a besoin de continuer à créer de la valeur ajoutée en France. Il faut qu'on crée de la valeur ajoutée. Aujourd'hui on a un déficit en général économiquement au niveau de la France, c'est on ne crée pas assez de valeur ajoutée. Donc le vélo a une capacité de créer de la valeur ajoutée.
Et alors justement, l'enjeu majeur de cette industrie, est-ce que, alors là, ma question est un peu orientée, mais est-ce qu'il n'est pas justement de réussir à créer de la valeur ajoutée, de la valeur financière à cette industrie, ce que c'est qu'un vélo et les services qui vont autour?
Oui, on est aujourd'hui, je pense à... Il faut qu'on rechange beaucoup de modèles économiques.
Oui.
Il faut qu'aujourd'hui, déjà, vous voyez des choses arriver, c'est-à-dire avec des vélos connectés, hein, par exemple. Donc, le modèle économique peut être différent, avec des abonnements, avec différentes choses. On doit recréer sûrement un nouveau système économique autour de ça. On doit créer de la valeur, on doit créer, bien sûr, des emplois, et surtout aussi... Il faut penser que le vélo, c'est pas non plus uniquement que de la fabrication de produits neufs, mais c'est aussi tout ce qui est produits recyclés ou des produits de deuxième main ou des produits d'occasion. Aujourd'hui, il y a des très belles sociétés comme je crois Upway, Rothil, tout ça, qui sont en train de se construire, qui font le même schéma aussi dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Et là, on est dans cette notion de j'achète un vélo occasion, je le refais, je le remets presque à neuf, et puis je le revends. Et là, il y a un marché d'occasion qui est en train de se faire, qui est en train de se créer, qui est un marché dynamique aussi.
Oui.
Donc c'est ça aussi, ça apporte de la valeur ajoutée.
La circularité.
Aussi, c'est positif.
Oui. Alors, il est 14h25, on va s'écouter Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire. Avant, je vous pose la question qui me tient à cœur, évidemment, que je vous poserai toujours. Vous avez les 3 minutes de la chronique d'Abel pour y réfléchir. C'est une question qui me tient à cœur et pour cause. Selon vous, quel rôle ont les médias vélos dans cet écosystème et comment est-ce que vous pouvez les accompagner? Et puis, cette question, en fait, elle est pas si neutre que ça quand on écoute la chronique d'Abel, parce que Abel revient sur l'assassinat de Paul, cycliste, par Ariel, un automobiliste, et surtout le traitement médiatique qui en effet dans la presse généraliste. Tout ça, ce serait donc à cause des cyclistes. Abel, c'est à toi.
Bonjour. J'avais prévu de continuer aujourd'hui sur le sujet que j'ai abordé la semaine dernière, les doubles sens cyclables. Un automobiliste en a décidé autrement. Mardi dernier, 15 octobre 2024, à l'heure de pointe du soir, il a franchi la bordure d'une piste cyclable du boulevard Malesherbes à Paris, près de la place de la Madeleine, pour y rouler sur 200 mètres environ. Un cycliste s'y trouvait et l'histoire se termine par la mort du cycliste Paul Varry, âgé de 27 ans. Je ne vous parle pas des circonstances dont vous pourrez trouver les détails ailleurs, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est le traitement médiatique de cet événement. Au cours des journées de mercredi, lendemain de ce drame, et de dimanche, lendemain des nombreux rassemblements de cyclistes qui ont lieu dans toute la France samedi en fin d'après-midi en hommage à Paul Varry, de nombreux débats ont eu lieu dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce qui frappe dans ces débats, leur caractéristique principale, c'est qu'il y a très largement et souvent uniquement été question des infractions au code de la route et des incivilités des cyclistes, de leurs conséquences, des moyens de les empêcher, de les réprimer, immatriculation des vélos, mise en place d'un permis pour les cyclistes, etc. Rappelons-le, le cycliste tué roulait dans une piste cyclable, aucune infraction ni imprudence commise par lui n'a été rapportée. Comme l'a très bien dit une participante lors d'un des rassemblements de samedi, ce n'est pas lui qui a commis une infraction ou une imprudence. Il n'a pas été distrait, il n'a pas été négligent ou imprudent, il n'a pas pris de risques inconsidérés, il a simplement emprunté en confiance une infrastructure cyclable. Fin de citation. À l'inverse, l'automobiliste a délibérément emprunté un aménagement qui ne lui était pas autorisé. La suite de son comportement, dont j'ai préféré ne pas vous parler tant qu'il n'est pas judiciairement établi, n'allant pas dans le sens d'une prudence minimale ni d'attention aux autres, mais d'un égoïsme violent. En résumé, à l'occasion d'un drame dont l'élément déclencheur est l'inobservation par un automobiliste d'une disposition du code de la route et une forte caractéristique, les incivilités de cet automobiliste, les principaux sujets étaient les infractions des cyclistes au code de la route et leurs incivilités. Mes amis représentants d'associations cyclistes ont été souvent conviés à ces débats, mais n'ont jamais réussi à inverser la vapeur et à rétablir la vérité. Paradoxalement et malheureusement, cet épisode n'aura pas affaibli, mais plutôt conforter la légende urbaine bien établie qu'on peut, en exagérant à peine, résumer ainsi. Dans les villes, il y avait jusqu'à présent des automobiles et des piétons qui cohabitaient dans d'assez bonnes conditions grâce au respect, à quelques exceptions près, du code de la route et de quelques règles de comportement. Depuis peu est apparue une horde d'envahisseurs, les cyclistes, dont l'occupation principale est de bousculer et de renverser les personnes âgées et de commettre le maximum d'infractions au code de la route, surtout en brûlant des feux rouges, ce qui a provoqué une forte hausse de l'accidentologie, dont ils sont d'ailleurs largement victimes. À lundi prochain.
Oui, donc j'avais quand même une dernière question pour vous. Le rôle des médias, alors Abel il évoque un peu ce sujet, des comment ce drame est traité dans les médias généralistes, mais les rôles des médias selon vous dans les médias spécialisés vélo, comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner la filière, je dirais, selon vous?
À continuer à faire la promotion de notre filière, de bien expliquer ce qu'on souhaite faire, qu'on est pour du vélo,
oui.
On est pour l'usage du vélo, on est pour réindustrialiser la France avec des industries du vélo, pour que le commerce du vélo puisse se porter le mieux possible. Et il y a déjà la preuve, votre radio qui nous aide et qui nous porte aussi. Donc il faut continuer à faire ça. Et moi, je suis pour gérer les paroles positives. Je suis pas pour les paroles négatives. Et il faut continuer à porter le vélo comme un sujet positif et un sujet de bienveillance pour tout le monde. Et ça, je compte sur les médias pour le faire et la radio principale.
C'est quand même aussi, malgré tout, le rôle d'un média de pointer du doigt des choses qui semblent un peu bizarres ou des choses qui leur plaisent pas, pas pour critiquer, mais pour dire, ce truc-là, ça me semble un peu bizarre, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, non?
Ah, bien sûr, c'est évident que c'est la force qu'on a dans notre pays, qui est la France, qui est un très très beau pays, c'est la liberté d'expression.
Ouais.
Et ça, c'est primordial. Et on doit tous se battre pour cette liberté d'expression. Et je crois que le monde de la radio est vraiment l'endroit où il y a une vraie liberté d'expression. Et surtout, comme on est là en direct, c'est quand même beaucoup plus facile et on a le droit de dire ce qu'on veut, comme on veut.
Ouais.
C'est la force de notre pays, on doit toujours la garder, et c'est la force des médias.
Prendre
des sujets, doivent les porter, doivent avoir leur œil aussi très critique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours une contrepartie, c'est-à-dire une contre-vérité, d'avoir un dialogue, d'avoir un débat. Et c'est ça qui est très intéressant.
Une critique constructive, finalement.
Toujours.
Merci beaucoup, Patrick. Chers auditeurs, chères auditrices, comme je le disais, cette émission est dédiée à Paul Varry. Paul, bah écoute, repose en paix. Et oui, auditeurs, auditrices, même Patrick, je vous invite à enfourcher votre vélo aujourd'hui, demain, après-demain. Pédaler, c'est militer. N'oublions pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est de toute façon une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez sur 93.fm, cause commune. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et à la semaine prochaine. Merci, Patrick.